Actu SF, les podcasts.
Bonjour. Hop. Oui, ça marche. Merci à vous d'être venu ce matin. Vous le savez, cette année, malheureusement, Ursula Le Guin est décédée. Et du coup, les Utopiales lui rendent tout un hommage à travers une série de conférences. Et aujourd'hui, pour lui rendre hommage, on a autour de notre table Elisabeth Von Arberg, David Vollmans et Sylvie Denis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Elisabeth, il faut absolument lire le cycle de Tiranael et la série Reine de mémoire, notamment. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Sylvie Denis, il faut absolument lire ses nouvelles et ses romans, et notamment La saison des singes et L'Empire du Soleil. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas David, il faut absolument lire ses livres aux éditions des Forges de Vulcain, et notamment le livre d'essai sur d'Ursula Le Guin, je sais jamais trop comment on dit. Rappelle-moi juste le titre.
Le langage de la nuit.
Le langage de la nuit, exactement. Oui, il y a un débat sur est-ce qu'il faut dire Le Guin ou Le Guin. Le Guin, c'est breton. Ah ouais. Est-ce qu'elle aimait les crêpes? Ah oui. Alors, Elisabeth Von Arberg nous dit qu'effectivement, son mari était d'origine bretonne, donc Le Guin. D'accord, mais vous dites rien à Jeanne Adoba, qui hier m'a dit, tu dis Le Guin, surtout. Donc je veux bien qu'on dise Le Guin, mais ça sort pas de la salle. On est d'accord, hein?
Non. En fait, il faut dire Le Guin, mais parce que c'est breton, pas Le Guin, parce que c'est prononcé à l'anglaise, voilà.
Non,
donc, il faut sentir que c'est Le Guin, mais pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons.
Not Le Guin, ok. Voilà, Ursula. Sur cette table ronde qui est un hommage, on va se balader un petit peu dans l'œuvre et dans la vie d'Ursula Le Guin. Et évidemment, vous pourrez largement participer parce que vous avez tous lu ces ouvrages. Je vous fais pas offense là-dessus. À nos invités, on va faire un petit tour de table. Peut-être vous demander quel est le roman ou le cycle qui vous a le plus marqué, que vous préférez le plus d'Ursula Le Guin, et pourquoi. Sylvie.
Merci. Ça va être très classique. C'est tout le cycle de Heine La main gauche de la nuit, Planète d'exil, Rocallan Worlds. C'est ce que j'ai lu le bêtement le plus tôt, et c'est ce qui m'a fait apprécier l'auteur. Et après, il y a des nouvelles indépendamment et pas nécessairement appartenant au cycle. Voilà.
Et La main gauche de la nuit, c'est 1969, c'est le prix Hugo. Pourquoi est-ce que ça te plaît particulièrement?
Je l'ai lu au bon moment, c'est-à-dire que je peux pas donner de date exacte, mais je l'ai très certainement lu entre 15 et 18 ans. Donc c'est un des tout premiers bouquins de science-fiction que j'ai lu, qui était écrit par une femme, qui posait la question de l'intergenre. On parlait pas de ça à ce moment-là, mais qui créait des extraterrestres qui sont hermaphrodites et qui ne fonctionnent pas comme des humains. Et moi, ça me fascinait absolument. Et l'idée de cette androgynie à l'époque et toujours me séduisait. Je connaissais pas Bowie à l'époque, mais c'est très logique que je l'ai apprécié ensuite. Il y a une continuité absolue chez moi dans ce domaine-là.
Un pont entre David Bowie.
Il y a quelque chose dans l'androgynie qui me séduit et qui m'intéresse.
Elisabeth.
Alors c'est horrible de demander ça.
Je l'avais
parce
dit.
Parce que hein. J'aime à peu près. Je ne suis pas une inconditionnelle de Le Guin du tout, mais j'aime pour des raisons différentes. Enfin, si on de ceux qu'on préfère le plus, le mieux, le. J'avais lu La Cité des Illusions, le Monde de Rocannon, etc. Bon, j'avais bien aimé, c'était bien. Je pense que ça n'avait même pas enregistré. Ah oui, tiens, c'est une femme, parce que ce n'était pas la première femme que je lisais. C'était en 69, par là. Et puis, je suis tombée sur la traduction chez Ailleurs et Demain, je vois encore la couverture, bien sûr, de La Main Gauche de la Nuit. Et là, ça a été wow. Alors donc, en 70, j'avais la bonne âge, j'étais dans ma jeune adulteté, là, et j'étais en train d'écrire Tyrannaël, la troisième version, il y en a eu sept, et j'ai eu l'impression de, voilà, c'est ça que je veux écrire, c'est ça que je veux lire, et je ne suis pas d'accord là-dessus, mais je vais en discuter, et j'en discute encore. C'est-à-dire qu'avec ce livre-là, et ensuite avec Terre et Mer, et la suite, Terre et Nue, et c'était vraiment rencontrer quelqu'un avec qui j'avais envie, comme écrivaine, et comme femme, et comme personne humaine, avec qui j'avais envie de discuter. Et quand je lis, par exemple, ses essais, tous ses essais, dont je suppose qu'ils ne seront pas tous traduits, malgré la bonne volonté de David, là encore, j'entends la voix d'une personne que je reconnais. C'est ça qui m'a le plus profondément touchée et qui me touche chaque fois que je lis du Le Guin, c'est que je reconnais cette voix, je reconnais cette vision du monde et j'ai une compagne pour la vie.
Et cette voix, entre guillemets, qu'est-ce qui te séduit le plus dans cette voix ? Sa dimension anthropologique, sa dimension vis-à-vis de l'autre, sa dimension sociétale ?
D'abord, parce que c'est une voix spécifiquement science-fiction pour moi, par l'ouverture à l'autre, par l'appréciation de la différence. Mais c'est aussi une voix personnelle. C'était une personne, Ursula Sapristi, bonsoir de zut. Et elle avait cet humour, et elle avait cette force, et elle avait cette opiniâtreté. Et cette espèce de bon sens. Genre, une fois, je discutais avec elle, et elle a dit l'équivalent en anglais de « Oh, bah, écoutez, arrêtez, qu'ils arrêtent de nous faire chier !» Au moins, quand mon idole dit un truc comme ça, je dis « Wow !» Bon, c'est ça, c'est que c'était une personne, il n'y avait pas de solution de discontinuité entre la voix que j'entendais dans les textes, que ce soit les textes de fiction ou de non-fiction, et la voix que j'entendais quand je la rencontrais. Et ça, c'est pas forcément le cas de tous les écrivains, de tous les artistes et de tous les écrivains.
On les rencontre pas tous.
David ?
Alors, moi j'aime tout Le Guin, mais j'ai une tendresse particulière pour les Dépossédés, parce que je l'ai lu en terminale. Quand j'étais au collège, j'étais un gros lecteur de science-fiction et j'avais fini mon grand parcours de lecture en troisième en lisant Herbert et Dune qui m'avaient émerveillé. Et puis après, la pression des études et puis tout cet environnement qui dit, à l'époque, ça a beaucoup changé maintenant, mais qui disait, bon maintenant, tu es grand, tu dois arrêter de lire de la science-fiction, faisait que j'étais parti vers de la littérature générale. Et en fait, en terminale, c'est notre prof de philo qui nous faisait faire un dossier sur les contre-utopies. À l'époque, on ne disait pas encore dystopie, qui était considéré comme un anglicisme. On disait contre-utopie. Et dans le dossier, il y avait des textes assez classiques, 1984, Le zéro à l'infini, ce type de texte. Et il y avait Les Dépossédés, et donc que j'ai lu en français puis en anglais. Et pour moi, ça m'a complètement émerveillé parce que je pense que, je ne dis pas que les textes de science-fiction que je lisais au collège n'étaient pas des textes où il y avait une dimension politique, très intellectuelle, ce type de choses, mais je ne la percevais pas du tout. Et c'est qu'avec Le Guin, j'ai tout perçu d'un seul coup. Et ce qui m'avait particulièrement frappé dans les Dépossédés, c'est une expérience en deux temps. C'était d'une part que ce soit une sorte d'utopie anarchiste. Mais ce qui était très particulier, c'est des années après que j'ai pu identifier ça en voyant un entretien de Le Guin, c'est que ce n'est pas une romancière à message, c'est-à-dire elle ne dit pas « je vais vous convaincre des bienfaits de l'anarchie », c'est plutôt une romancière à expérience, c'est-à-dire de dire « voilà, on va, tout comme dans La main gauche de la nuit, on supprime le sexe, et on voit, enfin l'identité sexuelle, et on voit ce qui reste », là, il y avait, sur une des planètes, on va supprimer la propriété privée et on va voir ce qui reste. Et donc, ce n'était pas de la littérature à un message où on martèle quelque chose, mais c'était vraiment une hypothèse de pensée. Voilà. Et alors, à l'époque, ce qui est très particulier, enfin, rétrospectivement, c'est particulier, alors qu'à l'époque, c'était naturel, c'est que je savais que c'était une femme, mais c'était quelque chose qui ne me frappait pas du tout. Et c'est des années après, en continuant à lire de la science-fiction, que c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Alors, ça m'a intéressé sous un autre angle, c'est que la question du féminisme n'est pas nécessairement une question très importante pour Le Guin, alors qu'effectivement, elle écrivait dans un monde où il y avait des romancières de science-fiction, mais elles étaient minoritaires au sein des auteurs de science-fiction.
Alors, peut-être des réactions et pour Sylvie et pour Elisabeth. Sur le côté interrogation et sociologie sans science-fiction à message, est-ce que c'est ça que vous retiendriez? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette partie-là?
Non, vas-y, je...
L'une ou l'autre. Elisabeth.
Pour reprendre sur l'aspect féministe, quand je dis qu'il y a une voix que j'ai reconnue, à l'époque, moi, je commençais à me défaire de la science-fiction. J'en lisais depuis 3 ans de manière absolument boulimique. Et je commençais à être déçue. Parce que j'avais l'impression que c'était Testosterone City. Il y avait des hommes, il y avait des combats dans l'espace, il y avait des petits gars, il y avait des fusées phalliques. J'en avais marre. Il y avait bien quelques voix de femmes, mais elles étaient tellement rares que... Comment dirais-je, le dosage ne réussissait pas à faire basculer le bidule. Et tout d'un coup, là, avec l'interrogation sur les pronoms, avec toute la prise en charge par la narration de « mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire de les appeler il ou elle, étant donné qu'ils sont androgynes et hermaphrodites, on pourra discuter sur les deux termes. » Mais là, tout d'un coup, ça, le jello a pris, enfin, je veux dire, la solution a été saturée et la couleur a viré d'un seul coup. J'ai dit « bon, voilà, c'est ça !» Et quand je dis c'est ça que je veux faire, c'était je veux écrire comme une femme, même si je n'avais pas trop idée de ce que c'était à l'époque, parce que j'ai été féministe relativement tard. Il a fallu mai 68 et voir que c'était toujours les filles qui balayaient les mégots de cigarettes et qui nettoyaient après les réunions. Et que, bon, mais ça, c'est, entre autres. Mais c'est surtout après avoir lu ce bouquin-là que ça a commencé à devenir conscient. Alors, tout l'aspect... Tout le reste en découle d'une certaine façon, parce que le questionnement féministe, et pour moi c'est pratiquement exclusivement un questionnement, toutes les réponses apportées par les différentes vagues du féminisme sont des réponses pour moi biodégradables, et Dieu sait qu'elles sont en train de se dégrader en ce moment, c'était... Tout, c'était la sociologie, c'était la politique, c'était l'économie, c'était les relations entre les gens, c'était la famille, c'était la façon dont on perçoit son corps et le corps des autres. Enfin, c'était tout. Tout se réorientait d'un seul coup à partir de ce bouquin-là. Ça, je le dis rétrospectivement, bien sûr, parce que je me rends compte que c'est ça qui s'est passé petit à petit. Mais c'était le noyau, c'était ça.
Sylvie ?
C'est un petit peu différent pour moi parce que j'avais très conscience, quand j'ai commencé à lire de la science-fiction, du fait que les auteurs étaient soit des femmes, soit des hommes, donc les quelques femmes, il n'y en avait pas beaucoup, fin des années 70, début des années 80 que j'ai lu, étaient importantes, mais au sens où elles me montraient que c'était possible, ça existait. Donc, Ursula Le Guin, mais pas seulement. Il y avait Joël Van Robert en France. Il y avait d'autres personnes. Je pense pas que j'avais conscience à l'époque de lire de la littérature féministe, de la littérature à message. Mais sans être de la littérature entre guillemets à message politique. Il y a quand même un sens. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que c'est juste le truc qu'on lit pour passer la soirée, quoi. Ça me gênerait qu'on dise ça. Je sais pas ce qu'en pense.
David.
Non, en fait, je faisais. Pardon. je faisais allusion à un entretien qu'elle a donné. En 1980, quand la chaîne américaine publique ou semi-publique PBS a diffusé la première adaptation de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du rêve, pardon. Juste après cette diffusion, il y avait un entretien avec Le Guin où elle parle un peu des missions qu'elle donne à la science-fiction et où elle fait une distinction entre message et meaning, c'est-à-dire message et sens. C'est-à-dire, elle dit je suis une romancière à sens, mais pas une romancière à message. Ce qu'elle veut juste dire par là, c'est qu'elle n'aime pas trop les romans qui sont démonstratifs, c'est-à-dire qui déroule quelque chose, une connaissance, et elle parle beaucoup de la notion d'expérience, à la fois d'expérience de pensée, mais d'expérience d'écriture, c'est-à-dire qu'elle explique qu'elle réfléchit assez longuement sur ce qu'elle veut dire, et puis en fait, quand elle commence le roman, finalement, c'est par l'écriture que se déploient les choses. Et donc, effectivement, elle considère qu'elle est bien une romancière à sens, ses romans ont un sens, ont une portée politique, parce que elle est très politique, elle est très cultivée sur ces questions-là, elle s'est posée ces questions, mais simplement, elle n'était pas c'est ce qu'elle voulait dire par la distinction entre message et sens.
Vous le verrez dans le documentaire qui repasse cet après-midi à 1h15. Si vous l'avez raté, ne le ratez pas la deuxième fois. Elle dit que ce qui lui vient en premier quand elle écrit, c'est une place et un personnage. Donc, ça n'est pas une idée. De toute façon, les écrivains n'ont pas d'idée, ils ont des mots, c'est bien connu. Et donc, c'est par l'expérience, c'est par l'espèce de channeling du personnage qu'elle entre dans ce monde, qu'ils y vivent, ils y grandissent, c'est ce monde qui les a modelés, et donc tout naturellement, leurs opinions, leurs émotions, leurs réflexions vont leur venir à partir de cette expérience de pensée qui est le monde qui lui est venu et qui lui vient de son imaginaire. Et il faut se rappeler que c'était une poète, et donc que les mots étaient l'essentiel de son véhicule. Hein, donc effectivement, meaning, not message.
Mais c'est vrai, en plus, en fait, moi, j'ai eu une très, très brève correspondance avec elle. Quand on a décidé de publier Le langage de la nuit, de commencer à publier la non-fiction d'Ursula Le Guin, puisque finalement, sa fiction est déjà grandement publiée chez tout un ensemble d'éditeurs français, donc le travail est fait d'une certaine façon. Une partie de son œuvre qui est peu connue, c'est la non-fiction, du moins en français. Et un jour, je reçois une lettre d'Ursula Le Guin. Je m'y attendais pas du tout parce que j'avais pas sollicité particulièrement. Je me disais, c'est une vieille dame, elle a d'autres choses à faire. Mieux vaut qu'elle écrive plutôt qu'écrire à ses éditeurs. Et donc, elle nous écrit une lettre. On a deux, trois lignes en français. Et puis après, elle bascule sur l'anglais. Elle dit, voilà, en fait, j'ai longuement étudié le français. Je l'ai beaucoup parlé, mais j'ai plus vraiment l'occasion de le pratiquer. Donc, je préfère vous parler en anglais. Je vous écris pour me mettre à la disposition du traducteur, ce qui était quand même très particulier. Et elle dit, moi-même, j'ai été traductrice de l'espagnol plutôt, mais je connais les difficultés. Et alors, là où je veux en venir, c'est que quand elle finit son deuxième paragraphe, qui est le paragraphe sur « Je suis désolé, mais je vais abandonner le français pour vous parler en anglais », elle emploie cette formule « My French has been rusted into silence ». Et c'est extrêmement frappant, c'est une phrase extrêmement courte, qui est une formule qui n'appartient qu'à elle. Donc j'ai cherché dans toutes les bases de données, tout le domaine public anglophone. C'est une invention intégrale, c'est une phrase extrêmement belle. Alors en français, c'est dur de rendre ça poétiquement, mais c'est-à-dire, mon français s'est tellement rouillé qu'il est silencieux dorénavant. Alors vous voyez, c'est horrible en français, mais en anglais, c'est court, c'est évocateur. Et en fait, dans ses essais, elle explique quelque chose de très particulier, c'est que comme les mots sont sa vie, chaque fois qu'elle écrit, mais c'est-à-dire chaque fois qu'elle écrit. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblait sa liste de courses, mais voilà, il y avait ce sens de la poésie, c'est-à-dire elle était romancière en permanence. C'est d'ailleurs pour ça que son dernier grand recueil d'essais a un titre en anglais qui est « Words are my matter », c'est-à-dire les mots sont ma matière. Et d'ailleurs, au début des années 50, une grande partie de son œuvre, c'est une œuvre poétique, en fait. Et là, parmi les inédits qui vont sortir, alors en anglais d'abord l'an prochain, il y a son dernier recueil de poésie.
C'est vite, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, non, je suis entièrement d'accord. Je suis toujours frappée. Enfin, j'ai relu dernièrement des articles, notamment des articles qu'elle a écrits après, longtemps après la première parution de La main gauche de la nuit, où elle explique qu'elle aurait dû faire les choses autrement, ou pu les faire les choses autrement, et ci et ça. Ce qui est frappant, c'est la précision de sa pensée, la précision de la façon et la concision de la façon dont elle s'exprime, ce qui est un plaisir absolument rare. Il n'y a jamais de choses en trop. Ça, c'est quelque chose de délicieux.
Elisabeth ?
Justement, à propos de ce qu'elle a, à propos de La main gauche de la nuit, puisque c'est le bouquin à partir duquel nous discutons, J'ai relu moi aussi récemment, en me rendant compte que la première fois et la deuxième fois, la première fois en français, la deuxième fois en anglais que j'avais lu le bouquin, la question des pronoms, les fameux pronoms, il, les noms masculins, homme, fils, etc., ne m'avait pas du tout dérangé. Alors que lorsque je le lis maintenant, j'ai quand même 50 ans d'écriture derrière maintenant, et j'ai relu aussi ses essais, en particulier celui où elle dit... Au début, j'étais sur la défensive, mais maintenant, je me rends compte que oui, je me suis gourée. Et si je l'écrivais maintenant, je ne l'écrirais pas pareil. Et je me suis demandé jusqu'à quel point, qu'est-ce qui appartenait au fait qu'elle était moins conscientisée, oh, que je déteste ce mot, qu'elle était moins conscientisée à l'époque, et le fait qu'en anglais, fabriquer un pronom qui convienne aux guéténiens, et tout un vocabulaire, parce que c'est pas seulement il, c'est fils, c'est mari, c'est homme, c'est ministre, c'est roi. Jusqu'à quel point c'était pas un problème linguistique pour elle, autant qu'un problème philosophique de genre. Je serais vraiment curieuse.
Et oui, elle dit qu'elle était très contente d'avoir pu réécrire la phrase « The king is pregnant ». Ouais.
Cette phrase-là lui reste, parce qu'effectivement, c'était...
C'est des phrases comme « Rusted into silence, the king is pregnant ». C'est très révélateur aussi de quelque chose dont elle... Alors, elle a participé depuis les années 70 à un atelier d'écriture. Alors, je précise pour l'anecdote que dans cet atelier d'écriture, c'est pas elle qui le dirige. C'est-à-dire qu'elle et son mari sont dans la pièce et il y a quelqu'un qui a la lourde charge d'animer un atelier d'écriture où il y a Ursula Le Guin dans la salle. Donc ça, c'est un peu difficile. Et, mais elle a écrit beaucoup d'essais. Il y a notamment... deux recueils d'essais sur l'écriture qui sont Steering the Craft et The Wave in the Mind. Et dans les deux, elle revient beaucoup sur son attachement à l'élégance de la langue anglaise. Souvent, ses références littéraires qu'elle donne comme exemple sont des exemples des auteurs relativement classiques. Donc, elle a un amour particulier pour Kipling, un amour particulier pour Tolkien. Et
Virginia Woolf.
Et Virginia Woolf, oui, surtout dans... dans Wave in the Mind, il y a un gros passage sur Virginia Woolf. Et en fait, elle sous-entend quelque chose qu'elle n'aime pas dans la science-fiction, la littérature de l'imaginaire, c'est la création de monde qui passe par ces premières pages où on fixe un monde avec des noms complètement tordus. Et elle est plutôt attachée finalement à des choix lexicaux classiques et des tournures de phrases qui sont poétiques où elle réinvestit des choix lexicaux classiques. Donc elle est très loin de certaines approches de la SF où, oui, c'est ça, les ouvertures de romans sont comme un lexique ou un mode d'emploi.
C'est un quick de la planète Xurk.
Ok. Ok, ça veut dire que comment est-ce qu'elle construit justement ces univers et ces monstres,
ces mondes.
Pardon, t'as parlé de la poésie des noms et des choses en place. Comment est-ce qu'elle met en place en fait ces ambiances?
Il y a la mythologie aussi.
C'est étonnant que vous parliez des noms. Effectivement, elle a une très grande capacité à inventer des noms qui sonnent justes. Justement, il n'y a pas de Xurk et de Xorb et d'habitants de la planète Blurbos. Tous les noms dans la main gauche de la nuit sont agréables à entendre et semblent parfaitement naturels. Faut quand même savoir qu'elle était la fille de d'ethnologue et qu'elle a également lu pas mal d'ouvrages et que c'est vrai que c'est quelque chose dont je m'étais absolument pas aperçue quand je l'ai lu pour la première fois, mais La main gauche de la nuit, ça doit beaucoup de choses à la société inuit, aux habitants du Grand Nord, etc. Mais c'est vrai que quand on le lit à un certain âge et qu'on n'a pas nécessairement le background, ça ne pose aucun problème. Et là, je l'ai relu maintenant, et même en sachant quelles ont pu être ses influences, ça pose absolument aucun problème, justement parce que le monde est créé par les mots, par les noms des personnages, tout simplement, les pays, les régions, les différentes sortes de neige, tout le calendrier, etc. Enfin bon, toutes les choses classiques, mais qui sont bien faites, qui ne vous tombent pas dessus dans un énorme prologue au début du bouquin, par exemple, qui est ma bête noire.
Oui, en tant que fille d'anthropologue et d'ethnologue, elle avait donc cette bibliothèque absolument hallucinante à sa disposition, d'une part. Puis, d'autre part, elle a cette espèce de conception poétique, elle le dit dans certains de ses articles, le nom, magiquement, donne un pouvoir sur la chose, et même le nom est la chose. Donc, l'importance des noms dans la création de monde est absolument majeure. Et puis, c'était quelqu'un qui faisait des cartes. Donc, et c'était quelqu'un, donc, c'était une écrivaine qui envisageait ces mondes de façon holistique, je dirais, enfin, ou disons globale, pour pas faire prétentieux, là, parce qu'elle n'imaginait pas le monomonde avec la monosociété et le monocontinent. Il n'y a rien qui se passe ailleurs, il n'y a personne d'autre, ou bien il y a une société planétaire avec une religion planétaire. Oh la mort! Alors qu'elle, il y a des sociétés comme chez nous, et ces sociétés interagissent, et les gens viennent d'une société ou de l'autre, d'une idéologie ou d'une autre. Exemple, Anarès et bon, là c'était peut-être le plus... Mais même, il y a des continents différents, il y a des approches différentes, aussi bien de l'anarchisme que du néolibéralo-capitalisme galopant. Donc, c'est vraiment... Elle avait cette conception qui, moi, m'a fascinée tout de suite. De toute façon, l'autre bouquin qui m'a donné la permission d'écrire, c'était Dune, c'est-à-dire imaginer un monde au complet, le plus complet possible. Et c'était ça. Et ce qui m'a fascinée, moi, dans La main gauche de la nuit, c'est qu'il y avait de la poésie, puisqu'elle a écrit elle-même le poème qui donne le titre au livre. Ce n'est pas une citation, elle l'a écrit, c'est une création. Et il y a ces contes. Les contes qui arrivent tout d'un coup au milieu d'un chapitre, enfin entre deux chapitres. Alors vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que ça fout là? Quel rapport? Alors que ce qui m'a toujours frappé en le lisant dès le début, c'est que je sentais qu'il y avait un rapport. Il y avait une espèce de relation organique, soit un effet d'annonce, soit un effet de « oui, et je vais vous dire la même chose dans un autre registre ».
Un écho, oui.
Un écho. Et ça, c'est extraordinaire, parce que les gens d'une société, nous ne sommes pas uniquement notre métier, notre sexe, notre genre, ce que nous touchons par mois, notre famille, etc. Nous sommes aussi toutes les histoires que nous portons, toutes les histoires de notre société, mais aussi toutes les histoires de notre culture, et donc pas uniquement de notre société, mais la façon dont notre société a récupéré les histoires de sociétés voisines, etc. Donc nous sommes nos contes, nous sommes notre imaginaire. Et ça, elle l'a très bien... elle le met toujours là-dedans, elle le met toujours dans ses textes. Et il y a cette prolongation, il y a cette profondeur de l'imaginaire dans ces sociétés dont je trouve toujours qu'il manque, dont je trouve trop souvent qu'il manque dans les textes de science-fiction et de fantasy qu'on écrit.
Oui, là c'est... avant, finalement, de connaître un début de succès avec Le Monde de Rocanan en 66, elle a écrit plusieurs romans de littérature générale qu'elle n'a pas publiés. Et en fait, elle explique qu'à ce moment-là, une des lectures pour elle fondatrice qui lui permet de revenir vers la fantasy qui était sa lecture enfant et adolescente, c'est Tolkien. Et le fait que Tolkien soit linguiste et que la construction du monde de Tolkien procède par la construction de lexique, de langue, de contes, de légendes, et que tout s'étoffe à partir de là, et qu'on reste dans un rapport au monde qui est un rapport qui a une dimension allégorique et pas nécessairement un rapport réaliste, fait qu'effectivement elle est très elle construit effectivement des mondes, elle arrive à des cartes, elle construit des lexiques à la fin, mais tout procède organiquement par une sorte de déploiement progressif. Donc c'est très différent, et elle-même a théorisé cette différence par rapport à des auteurs dont elle a l'impression, je ne vais pas citer de nom, même s'il y en a un que j'ai déjà cité l'autre jour et ce n'était pas très malin de ma part, elle a l'impression qu'une manière d'écrire la science-fiction dans les années 60 et au début des années 70, c'était je vais construire un monde, donc voici son système politique, j'écris 50 pages, voilà la manière dont les gens parlent, voici les quatre races extraterrestres. Voici... Et en fait, pour elle, c'est une manière de procéder qui est anti-littéraire, anti-intellectuelle, en fait. Et c'est pour ça que, effectivement, par moments, ces mondes sont à l'intérieur de chaque roman ont une certaine cohérence, mais parfois les cycles d'écriture ont souvent été construits a posteriori, c'est-à-dire l'unité des œuvres entre elles. C'est pas, même si maintenant on parle de la série de l'écumène ou ce type de choses, elle s'est pas dit voilà, je vais écrire une série de 18 volumes qui va déployer ce truc en avançant dans ce sens-là. Quoi.
J'ai adoré, il y a un article dans une édition justement complète du cycle où elle explique qu'elle a pas fait de plan, elle a pas fait de grand ordonnancement et qu'il y a des nouvelles ou des textes qui se contredisent légèrement parce que les choses ont évolué de manière organique et progressive. Je vais relire ce passage à chaque fois que je vais me mettre à écrire et que je culpabilise parce que je fais pas de plans je fais des plans mais bon, ils sont spéciaux. C'est immensément libérateur d'entendre quelqu'un comme ça, parce que quand on la lit, au contraire, c'est extrêmement posé et logique, et tout ce qui doit s'entrecroiser et se faire écho s'entrecroise et se fait écho, et ça fonctionne.
Sur ces questions-là, ces textes-là auxquels je pense, et c'est peut-être celui-là auquel vous faites allusion, c'est pas encore disponible en français, mais c'est dans cette édition des œuvres complètes dans la Library of America.
Oui, exactement, c'est ce volume-là.
Il y a
ça,
voilà. Ouais. À chaque fois, il y a 2-3 pages, et notamment, il y a plusieurs pages comme ça, où elle parle de la construction a posteriori de l'écumène, enfin, la construction justement organique, progressive, naturelle de ce monde.
On dit que l'inconscient est structuré comme un langage. Alors l'imaginaire doit être structuré comme un langage. Et comme c'est le langage qui sert à fabriquer les mondes, elle avait un imaginaire cohérent au départ. Hein, les émotions et les désirs ou les craintes qui animaient son imaginaire étaient structurés déjà au départ. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est aussi, je crois, qu'elle était à l'écoute. Dans l'idée de, OK, je fais 50 pages sur le système politique, puis alors je fais... Il y a une espèce de volonté de contrôle qui me paraît contraire à l'élan créateur, dans la mesure où la création, c'est une espèce de danse sur un fil entre l'abandon et le contrôle. Et c'est ce qu'on apprend. Bien sûr, on apprend à écrire, on apprend des mots, des styles, des trucs narratifs, etc. Mais ce qu'on apprend aussi quand on écrit, et je pense qu'elle l'a su très tôt, c'est cette espèce de danse-là, entre l'abandon à ce qui pousse et le contrôle de l'écriture.
Et comment ils sont, ces personnages? Parce que là, on a parlé de l'écriture, on a parlé des mondes. Comment sont les personnages d'Ursula Le Guin? Est-ce qu'il y a des archétypes qui reviennent? Et notamment ceux de la main gauche de la nuit. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a marqué?
Ils sont complexes.
Ah, oui, voilà.
Ils sont complexes.
It's complicated.
Oui, voilà. Le narrateur de La main gauche de la nuit, on ne sait pas grand-chose de lui, on ne sait pas grand-chose de sa vie avant. On sait qu'il est un envoyé, il est tout seul sur cette planète parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est essentiellement le rapporteur de... Il nous rapporte ce qu'il a vu, ce qui s'est passé, ce qu'il a ressenti, mais uniquement dans le cadre de cette, de cette partie de sa mission. Il y a effectivement des choses qu'on peut déduire, des non-dits, mais ce n'est pas le narrateur qui le dit, c'est le lecteur qui doit... Ah, pas d'accord.
C'est-à-dire que, d'abord, il a un nom très spécifique. Il s'appelle Genli Ai. Et Ai, Le Guin étant francophone, elle savait exactement que ça n'était que ce que ça voulait dire en français. Ça veut dire Ai. Donc il souffre. En plus, il s'appelle Genli, que les gens de Gaten ne peuvent pas prononcer autrement que Genri, genre. Je ne sais pas si ça vous a frappé, moi ça m'a frappé, en tout cas. Ok, je projette, peut-être. Mais quand tu dis qu'il y a du non-dit, c'est vrai, mais il y a aussi quand même le fait qu'il ait accepté d'être immobile. Oui. Il a accepté de se couper de tout. Il a accepté de se couper de sa famille, de son monde, puisqu'il explique à un moment donné à Estraven que tous les gens qu'il connaît sont morts. Enfin, il est seul.
Oui, parce qu'il a le phénomène de dilatation du temps, donc ça. Il a voyagé.
Le temps a passé. Et il est prêt, il accepte l'idée qu'il peut mourir sur cette planète, ou qu'il peut rester seul sur cette planète jusqu'à ce que l'écumène décide d'envoyer quelqu'un d'autre. Donc c'est par inférence, c'est une personnalité très particulière. Mais curieusement, c'est pas lui qui me frappe. Il n'y a pas de personnages qui me frappent dans, enfin, qui me sont restés, c'est l'ensemble. Le personnage que j'ai aimé et qui me reste, c'était Hanou. Parce que c'est une femme, parce que c'est la réponse à Ged, parce que c'est la marque de l'évolution de Le Guin dans le temps, parce que c'est une vieille femme, ce qui n'est pas fréquent dans les genres. Et bon, tous les personnages de Le Guin sont complexes, effectivement. Mais celle-là m'a touché davantage, disons.
Alors, c'est une question complexe. Ça a été dit. Moi, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Donc, c'est juste là, en temps réel, que j'ai. Alors, c'est plus une hypothèse, une suggestion de lecture. Et après, moi, quand je vais relire les textes, j'aurai cette clé-là. Alors, pas pour Termeer qui est à part. Donc, je répondrai juste plutôt pour les romans de science-fiction des années 60, enfin, les textes de science-fiction des années 60-70. Il y a assez souvent, quand même, des personnages qui ont un pli un peu anthropologique, c'est-à-dire de. Curiosité bienveillante avec le monde qu'ils voient. Ils sont un peu désarçonnés, mais pas complètement rétifs. Et l'autre chose, c'est que c'est souvent des personnages masculins, mais leur valeur principale, c'est généralement plutôt l'intelligence, ou l'intelligence couplée avec un certain sens du collectif. Alors bon, ça s'applique pas trop dans La main gauche de la nuit, mais ce qui les distingue, j'ai l'impression... rétrospectivement, de pas mal de héros, peut-être des années 70, ou plutôt surtout les héros des années 50, en fait. Donc il y a peut-être. Voilà, mais c'est une hypothèse. Hein, c'est, voilà, quand vous relirez du Le Guin, essayez de voir si ça marche.
Le roman a eu le prix Hugo, le prix Nebula. Est-ce que ça a compté, ça, pour elle? C'était la première femme à avoir le prix Hugo. Comment elle l'a reçu? Est-ce que ça a été important ou pas du tout, cette distinction? Elle a été couverte de distinctions sur les dernières années de sa vie, mais à ce moment-là, 1960.
Alors, elle a été couverte de distinctions deux fois dans sa vie, c'est-à-dire 70-75, où vraiment là, elle rafle tout en permanence. Et voilà, là, c'est la très très grande, la première période. Et effectivement, après, elle a toujours continué à avoir des prix. Et c'est surtout à partir de 2000 où là, elle a vraiment eu tout. Et puis, elle a eu des prix qui n'étaient plus des prix de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'elle a quand même beaucoup écrit dans les années 70 sur... une certaine ostracisation des littératures de l'imaginaire au sein de la vie culturelle américaine, ce qui est un peu étrange parce qu'à l'époque, quand même, dès les années 60, Tolkien est très lu, Hersey est très lu dans les collèges.
C'est pas comme ça qu'ils le perçoivent pas comme ça.
Pardon ?
Ils ne le perçoivent pas comme ça.
Oui,
c'est-à-dire que dans la masse du lectorat ou du non-lectorat américain, ils sont qu'une goutte d'eau, en fait. Ou ils se perçoivent que comme une goutte d'eau.
Donc les prix, effectivement, c'est... et puis elle a aussi eu un rôle dans d'autres prix dont on ne parle plus aujourd'hui, mais par exemple, elle a eu un rôle moteur dans le Gandalf, c'est ça, qui était le prix qui avait été créé juste après la mort de Tolkien. Alors là, je parle vraiment de mémoire, qui a existé une dizaine d'années. Et puis le problème, c'est que à la fin, il ne trouvait plus d'auteur à qui le donner, donc ça a fini au début des années 80. Mais qui était, il voulait créer l'équivalent du World Science Fiction, mais du côté fantasy. Donc elle a eu cette grande période de prix. Alors c'était quelque chose d'important, mais surtout elle l'a utilisé comme une plateforme, c'est-à-dire pour aller plus loin, c'est-à-dire pas comme simplement un outil de reconnaissance qui était important, mais un outil pour parler à la fois effectivement de la question de la place de l'imaginaire dans la vie culturelle américaine. Alors ce qu'elle dit par exemple dans Le Langage de la Nuit, parce que Le Langage de la Nuit c'est un recueil d'essais, les essais datent des années 70, ont été compilés une première fois à la fin des années 70, elle les a révisés à la fin des années 80 et au début des années 90. Et on l'a traduit simplement il y a deux ans en France. Et ce qu'elle décrit à l'époque, c'est effectivement les Américains attachés à un monde très très concret, très très matérialiste, qui refuse de rêver et qui aime la littérature jeunesse, mais en fait, grosso modo, dès qu'on rentre dans l'âge adulte, c'est quelque chose qui disparaît. Donc elle l'a utilisé pour ça, et elle l'a utilisé parfois pour d'autres... Pour d'autres sujets, il y a. Alors, j'essaie de me souvenir à quel événement, lors de quelle convention particulière c'est, mais elle avait menacé de boycott lors d'une convention parce que Stanislas Lem, ses textes n'étaient pas. Alors, ça, c'est en peut-être Elisabeth qui peut répondre.
Elle a quitté l'association des écrivains, des auteurs de science-fiction américains, parce qu'ils ne voulaient pas prendre Lem. Ou bien ils refusaient. Oui, c'est ça. Ils avaient refusé de prendre Stanislas Lem parmi eux. Alors, elle est absolument scandalisée parce que c'est un auteur qu'elle admirait beaucoup, et elle a donc quitté la SFWA à cette occasion.
Et on ne peut quitter ce type d'association avec fracas que quand on est quelqu'un de connu.
Voilà. Oui, puis enfin, elle a profité de son dernier grand prix, oui. Le National Book Award, qui, vous le verrez aussi dans le documentaire, et c'est devenu viral. Pour elle, c'était, il y avait plein de gens qui étaient des éditeurs, des journalistes, des représentants d'Amazon, etc., etc. Et elle en a profité pour leur taper dessus, pour dire que la commercialisation de la mercantilisation de l'art et de l'écriture en particulier était une chose abominable. Évidemment, elle pouvait se le permettre.
Oui, alors ça, c'est aussi une autre partie de son œuvre qui est pas très connue, mais en fait qui est assez facile à accéder parce que on peut le trouver en ligne. C'est que dès la fin des années 70, elle a été invitée à donner beaucoup de commencement address. Donc c'est des discours qui sont devant un parterre d'étudiants, souvent lors des remises de diplômes ou ce type de choses. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a même un, je crois que c'est Wesley College, début des années 80, qui est dans l'anthologie des 100 plus grands discours de politique de l'histoire américaine. Et alors c'est aussi parce que c'était en préparation du fait qu'en 84, je crois, il y avait une candidate démocrate qui était candidate à la vice-présidence américaine en 84, la vice-présidente sur le ticket avec Dukakis, c'est ça,
je vois sa face,
dans ces eaux-là, voilà. Donc c'était, il y a eu cette période-là. Donc ça, c'est aussi une autre partie de son œuvre, c'est-à-dire que ce premier succès lui a permis ça. Et effectivement, quand dans les années 2000, il y a eu cet amoncellement de prix, mais qui n'étaient plus des prix uniquement du monde de l'imaginaire ou de la science-fiction, qui étaient des vrais grands prix littéraires, là, elle a multiplié les interventions qui étaient sur des projets, enfin sur des sujets beaucoup plus politiques, mais effectivement, son discours de 2016 est repris notamment, je crois que c'est dans Words of Are My Matter, et Words of Are My Matter, ça a été primé l'an dernier, c'est le meilleur essai, mais c'est dans quel prix que c'est ? Ok. Non-fiction, mais c'est quel c'est l'Hugo, oui, voilà, c'est l'Hugo en non-fiction.
On a pas mal parlé de l'écumène, on a pas trop parlé de terre-mère. Quel lien faisait-elle entre les deux ? Autre grand cycle.
Faisait-elle un lien entre les deux ? on ne sait pas, elle n'est pas là, il faudrait qu'on la channel. Il y en a un de toute façon au niveau de l'imaginaire, certainement. Voilà. Bon, la création de monde, c'est de la création de monde. Et l'importance de la... pas de la pensée magique, mais de cette relation que tu appelles allégorique au monde. Je ne sais pas si c'est allégorique le terme adéquat, mais cette espèce de relation qui se passe au niveau de l'imaginaire et de... Je dirais presque de l'affectif. Ces paysages sont habités, quel que soit le médium, enfin, quel que soit la science-fiction, fantasy, etc. Je dirais même qu'elle habite ses textes de non-fiction de la même façon, parce qu'on y trouve la même voix, d'une certaine façon.
Disons que... juste pour préciser un terme que j'ai employé tout à l'heure, allégorique. En fait, allégorique, c'est important pour les écrivains américains, puisque dans les années 1850, il y a la naissance du courant réaliste aux États-Unis. Ça s'est fait contre des auteurs que les auteurs réalistes ont qualifiés d'allégoriques. Donc au début, c'est une critique qui est adressée à des auteurs. Donc le plus connu, c'est Nathaniel Hawthorne. Donc Nathaniel Hawthorne, c'est vraiment le grand auteur américain. Et Nathaniel Hawthorne passe par l'allégorie, la métaphore, et les auteurs réalistes qui viennent la génération d'après et deux générations après lui disent le problème, c'est que dès que vous utilisez une allégorie, vous faites appel à de la culture que parfois les gens n'ont pas, donc vous faites une littérature pour des gens qui sont lettrés. Vous n'êtes pas en train de faire une littérature qui s'adresse au peuple, et donc il faut s'éloigner de ce type de littérature. Et en fait, chez Le Guin, ce que je trouve très particulier, c'est que d'une certaine façon, le monde de l'imaginaire est souvent soumis au monde du réalisme, parce que souvent dans la littérature de l'imaginaire, on a un rapport à des objets imaginaires, mais un rapport qui est réaliste. Alors que chez Le Guin, on a un rapport à des objets imaginaires qui a un rapport allégorique. Et alors, tout à l'heure, tu parlais des noms. Dans Terre-Mère, ça prend une amplitude autre encore que dans ses autres romans, dans la mesure où Terre-Mère, le lien entre la magie et les mots et la parole est établi, théorisé, reflété. Et ce qui fait que pour moi, c'est aussi une des choses qui fait que Le Guin, c'est à la fois la plus grande romancière de l'imaginaire, et c'est aussi une des plus grandes romancières de littérature tout court.
Je sens mes années d'université qui me remontent comme de la bile tout d'un coup. Parce que allégorie et
métaphore. Je fais souvent ça sur les gens.
Allégorie et métaphore, c'est pas la même chose. C'est ça. Alors, j'ai tendance à la voir plutôt comme métaphorique qu'allégorique. Mais bon, c'était une parenthèse.
Sylvie, tu voulais ajouter quelque chose ?
Pas spécialement. J'aurais une question, parce que j'ai pas lu Terre-Mère. Est-ce que c'est aussi politique que le reste ? Parce que ce qui est quand même très frappant, c'est ce goût pour les théories et pour la politique.
Alors il y a un truc, c'est moins politique, mais il y a un truc très politique dans Terre-Mère qui est souvent passé inaperçu, c'est que c'est la couleur de peau des personnages et qui a posé beaucoup de problèmes lors des différentes adaptations de Terre-Mère, parce que dans Terre-Mère, les personnages ne sont pas blancs en fait, et lors des adaptations, en fait, ils sont tous devenus blancs,
ravageusement blancs.
Les adaptations, il y en a deux connues. C'est une de la chaîne de télé américaine Sci-Fi au début des années 2000. Presque tout le monde devient blanc, sauf le mentor. Comment il s'appelle le mentor de Gen, son maître. Oui, c'est ça. Donc lui, il était joué par Danny Glover, je crois. Sinon, il y a l'adaptation par Gorō Miyazaki, sous le titre Les Contes de Terre-Mère, où effectivement les personnages deviennent blancs. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent revenu, puisque elle dit c'est à dessein qu'ils ne sont que la question raciale est posée différemment dans ce texte. Et dit c'est très révélateur que chaque fois qu'il y a eu d'adaptation, les gens sont revenus vers.
Ça l'agaçait beaucoup en fait. Elle était polie, elle le disait pas trop fort, mais en privé, elle était vraiment agacée.
Je pense que sur le Miyazaki, elle a vraiment été très énervée. Oui. Mais ça, c'était un de ses longs posts de blog où elle avait vraiment l'impression de s'être fait arnaquer. Parce que c'est une romancière qui n'a pas eu beaucoup de chance dans ses adaptations par rapport à d'autres romanciers comme Philippe K. Dick, qui a nourri énormément le cinéma et la télé et qui continue de le faire. Elle a eu beaucoup d'adaptations, contrairement à ce qu'on pense, mais souvent plus ou moins des ratages parce que peut-être que son écriture, si son imaginaire se prête moins à des adaptations ou demanderait un effort de recréation, de transposition qui est plus grand. Mais c'est vrai que, par exemple, comme elle avait été échaudée, elle hésitait à accepter de nouveau des adaptations. Elle accepte une adaptation parce que c'est le père Miyazaki qui lui demande. Et en fait, elle découvre avec horreur que c'est le fils, que le père lui-même considère comme moins bon que lui. C'est quand même, alors, les repas de famille chez les Miyazaki, ça doit être pas mal parce qu'ils parlent ouvertement du fait qu'ils s'entendent pas. Voilà.
C'est honnête, au moins.
Et quand le film arrive, elle fait. Alors, c'était quelqu'un qui avait un mélange d'une très grande force d'âme, donc elle dit toujours ce qu'elle pense avec des mots forts. Elle n'est jamais insultante parce que c'est vraiment a gentle heart, une personne bienveillante. Mais elle dit très franchement que pour elle, c'était un ratage. Et c'est pas ce type d'auteur un peu snob qui, dès qu'il y a une adaptation, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Parce qu'elle a longtemps essayé, là je parlais de l'adaptation de l'autre côté du rêve chez PBS.
Celle-là, elle y avait participé suffisamment. Elle y avait participé. Non, ça allait, celle-là, c'était bien.
C'est pas mal,
c'est
des moyens
celle-là.
Limités, mais ça fonctionne bien. Et puis, c'est un roman de l'autre côté du rêve qui est très dramatique, qui repose beaucoup sur les discussions entre deux personnages. Et donc, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, c'est disponible sur YouTube, non piraté.
On arrive au bout. Vous avez vu, il ne faut pas passer une soirée avec David, hein, sinon vous n'allez pas dormir, ni même avec Elisabeth. Des questions. Alors devant, il y en a plein.
Oui, je voudrais rebondir un petit peu sur deux choses. D'abord, l'aspect politique de Terre-Mère. Je pense qu'il y a non seulement la question de la couleur de peau, mais il y a aussi, et notamment à partir de Terre-Anou, la notion des femmes. Elisabeth, tu parlais justement du fait que Thénard, dans Terre-Anou, est une vieille femme. Pas si vieille que ça, d'ailleurs. Enfin, bon, bref. Donc, il y a cet aspect-là. Et il y a aussi l'importance, et là, dans la toute fin du cycle de Terre-Mère, l'importance de la mort et de notre rapport à la mort. Et ça, ça me paraît quelque chose de très profondément politique. Et par rapport aux personnages... je suis évidemment d'accord sur la complexité, mais je dirais en plus que ce sont souvent des personnages qui sont exilés, pas forcément. Moi, je ne parlerai pas forcément de solitude, mais d'isolement et d'exil, puisque par rapport à... Enfin, quand Gendlihai, par exemple, expose à Estraven sa situation, Estraven répond « et dire que je me considérais moi-même comme exilé ». Donc, ils sont tous les deux, en fait, exilés. Mais on le retrouve aussi dans le cas de Chevek, qui est seul chez lui, puis qui après est seul sur Uras. On le retrouve dans le cas de Ged, qui s'exile pour son nombre, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Et ces personnages peuvent aussi être marqués, y compris physiquement. Et là, on retrouve non seulement le cas de Ged, mais aussi celui de Terre-Anou, pour le coup.
Oui.
Juste un tout petit point de détail. Merci beaucoup. Sur la première partie... quand les tombes d'Atouane sort, qui est peut-être le plus entre guillemets féministe de la série de Terre-Mère, en fait on découvre que plein d'universités américaines le mettent en lecture obligatoire en première année en Women's Studies. Donc il y a eu une vague comme ça de quelques années où c'était parce que enfin, bon, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, voilà. Mais c'est vrai que le côté politique de Earthsea a été perçu très tôt, mais sur le deuxième volume. Sur le premier volume, qui avait eu pourtant un grand succès, je pense qu'on a l'impression que vraiment, ça profite d'une certaine façon de la vogue sur les campus américains du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire les gens ont un appétit à ce moment-là pour ce type de fantasy, mais très, très littéraire, très... voilà, et donc... Terre-Mère s'appuie un peu sur ça, mais le deuxième volume vraiment crée une expérience de lecture dans les campus américains très différente du premier volume, et notamment politique et féministe.
Les féministes n'étaient pas d'accord. On lui est tombé dessus à bras raccourcis sur ce roman-là parce que le personnage de... Voyons, comment est-ce qu'elle s'appelle ? Je ne sais plus. Le personnage de la jeune fille n'est pas vraiment un agent, elle n'agit pas, elle est sauvée par Ged. Et Le Guin elle-même le remarquait. Elle n'a vraiment commencé à intégrer sa réflexion et son évolution féministe qu'à partir de Terre-Anou. Que plein de gens lui ont reproché, d'ailleurs. Pas les féministes, mais les autres, justement, qui s'accommodaient très bien jusque-là de sa façon de faire.
Une question.
Oui, excuse-moi. Est-ce que vous pourriez revenir sur un titre qui a été évoqué à la fin, qui est, j'ai l'impression, le moins typique d'Ursula Le Guin, de l'autre côté du rêve, où là, j'ai un peu de mal à croire qu'elle serait partie d'un personnage, un lieu. Là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est partie d'une idée, non ? C'est-à-dire que si le monde change, les personnages qui en font partie changent également, et donc, ils ne s'en rendent pas compte.
Alors...
Non ?
Ça, non. Moi, je ne connais pas... Enfin, ma seule source sur la jeunesse de cette œuvre, c'est cet entretien d'une heure, parce que c'est un roman qui est vraiment un peu à part dans son œuvre. Et c'est vrai que ce qu'on a présenté comme idée, c'est-à-dire elle dit que souvent elle crée... son processus, elle décrit son processus de création et ça s'applique peut-être pas effectivement à son roman, qui d'une certaine façon ressemble plus à d'autres romans de SF, d'autres auteurs qui sont du high concept.
C'est son roman d'Ikien.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est la réalité.
Une autre question.
Mais oui, d'accord.
Oui, bonjour. J'ai lu La main gauche de la nuit il y a quelques mois, et quelque chose qui m'a beaucoup marqué à la lecture du roman, outre la question de du genre et du sexe, c'était dans la structure narrative. En fait, comme Genlia est le personnage principal et le narrateur, on entre dans ce roman avec en tête son projet, sa mission de faire adhérer Geten à l'écumène, cette espèce de projet à l'échelle du cosmos. Et en fait, assez rapidement, dans la première partie, le personnage arrive dans cette communauté religieuse où il y a une forme de divination et où on lui prédit de manière certaine que ça va se passer. Et donc, en fait, on est après un tiers du livre, on nous dit en fait cette mission finalement n'est plus un enjeu pour le personnage. Enfin, moi, à ce moment-là, je me suis senti un peu perdu. Je me suis dit, mais quel est l'enjeu du livre? Et on se retrouve dans la deuxième partie, en fait. Ça prend vraiment son envol à partir de l'exil d'Estraven et surtout dans ce long passage sur le glacier. Et là, elle rentre dans une dimension très, très intime. Donc, on passe comme ça du cosmologique à l'intime, à la rencontre de deux êtres. Et enfin, c'était assez fascinant. Plus une remarque qu'une question, du coup. Mais...
Mm-hmm. Non, c'est très juste. Je pense que, justement, ce qui fait de ce roman un roman de science-fiction qui était à part à l'époque... C'est que ce projet, qui est un projet classique, enfin, rejoignons la grande confédération galactique Tagada, c'est pas ça qui l'intéresse. Ça a jamais été ça qui l'a intéressé. L'œcumène, c'était le concept de, il y a toute une pléthore de mondes différents, faisons-les se rencontrer. Et elle a dit à propos, je crois que c'était à propos du voyage sur le glacier, que c'était une espèce de métaphore du mariage. Il y en a un qui tire, il y en a un qui pousse, on change de place, il y en a un qui tombe, on le ramasse, on fait des économies de ressources. Et ce motif du mariage, alors pour elle, je crois que c'est quelque chose de très ambivalent d'une certaine façon, parce que bon, elle s'est beaucoup revendiquée comme une femme au foyer d'une certaine façon, pas revendiquée, mais c'était important pour elle d'avoir été une mère, d'avoir été une épouse, etc., et d'avoir vécu comme telle pendant quelques années. Et il y a une dimension à cela qui est une dimension humaine qui lui semblait certainement dépasser le simple élément social de la chose et qu'elle a justement monté en métaphore avec ce voyage dans le glacier qui paraît tellement long et qui pourtant ne l'est pas.
Il nous reste alors 20 secondes pour la question, 20 secondes pour la réponse. C'est pas le plus petit défi de cette table ronde.
Oui, alors c'était juste un complément sur Terre-Mère. J'ai l'impression que quand elle a écrit le premier tome, en effet, elle a hérité de pas mal de tropes de l'heroic fantasy et de Tolkien en particulier, et que elle n'a pas arrêté ensuite de décaler la focale de façon politique dans les suivants. C'est-à-dire, il suffisait déjà que Ged soit plus le point de focalisation et que ça soit Thénard pour que ça paraisse féministe, mais par la suite. Quand on voit toutes les contes, notamment, ils viennent parler de certaines questions, parce que dans Atuan, il y a encore des choses. Non seulement il libère la femme, mais il libère la femme en rentrant dans une caverne toute obscure et avec son bâton blanc en jetant de la lumière qui illumine toute la caverne. Donc c'est très fortement marqué. Mais dans les contes, on a des questions qui sont traitées comme la sexualité. Tout le monde est chaste dans les trois premiers épisodes. Et il faut attendre le personnage de Loutre pour avoir un personnage qui est en dette vis-à-vis d'une femme, pour avoir un couple, pour qu'on sache que les magiciens ont exclu les femmes, que c'est une faute, et que l'histoire a été réécrite contre elles. Et donc, on a une relecture possible des romans, avant même Théanu, avec ces nouvelles-là, qui nous donnent un éclairage, en effet, beaucoup plus finiste et déconstructif. Un seul élément peut-être restant, c'est... J'ai fini. La royauté. La royauté est bonne, il n'y a pas de réflexion politique en tant que telle directement. Les prêtres sont mauvais, mais les rois sont bons. Voilà. Et là, ce n'est pas du tout questionner le régime politique.
Merci. Alors, on ne va pas vous répondre. Voilà, on n'a pas le temps. Mais on va remercier nos intervenants qui sont tout de suite en dédicace. Et puis on vous remercie, vous, évidemment.
Et je vous rappelle d'aller voir le documentaire. Il vaut vraiment la peine. C'est un documentaire remarquablement bien fait.